France Culture.
Voici venue l'heure du voyage biographique. Partir, grâce au documentaire, sur la piste de ces hommes et femmes d'exception qui nous ont laissé une trace durable et inspirante. Quelle fut la vie de celle ou de celui qui fit œuvre? Comment l'œuvre et la vie se nourrissent-elles l'une l'autre? Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Toute une vie. C'est un poète philosophe qui célèbre la pensée en mouvement. Il disait « L'artiste est un réactiveur. L'élan de sa parole assure le partage des rencontres. Lui qui sait si bien faire entendre la pulsation du monde. » Aujourd'hui, Antoine Tricot et Somanina vous proposent le portrait d'Édouard Glissant. 1928-2011, c'est toute une vie de poésie, du métissage.
Glissant écrivait la nuit.
Patrick Chamoiseau, écrivain et compagnon de route.
Il disait que la nuit, le travail de nuit est très puissant. La nuit, tout s'estompe. Et c'est pourquoi d'ailleurs dans la culture créole de l'habitation, il y a une interdiction qui est faite au compteur. Un compteur ne doit pas compter de jour, il doit compter de nuit. Parce que la nuit, lorsqu'il se lève pour parler, donc pour donner un langage à ses esclaves qui n'ont plus de langue, le compteur le fait au moment où l'habitation disparaît, c'est-à-dire il n'y a plus que la lueur des flambeaux. Donc l'ordre du maître a disparu, et là il peut parler, essayer d'articuler une parole nouvelle. Et Glissant, c'était pareil. Donc la nuit, pour moi, enfin d'après ma lecture, c'est que le monde dominant, néolibéral, capitaliste, occidental, qui encombre notre imaginaire, s'estompait. Et l'autre élément de la nuit, c'est qu'on est en communication directe avec, un espace vital qui n'est pas simplement lié à une langue, à un pays, à un clocher, mais qui est lié véritablement à toute à l'imagination ou à l'imaginaire que l'on peut constituer à partir de la présence de la totalité monde, ce qu'on peut imaginer de la totalité monde.
Édouard Glissant, poète d'un monde à venir. Antoine Tricot, Somanina. Il est né sous le nom de Mathieu Belluze en 1928 à la Martinique. À 9 ans, il devient Mathieu Glissant. Et c'est avec le prénom d'Édouard que sa poétique a pris corps. L'œuvre d'Édouard Glissant est multiple. Poèmes, romans, essais, pièces de théâtre, anthologies et manifestes. Sa renommée internationale le mène aux portes du prix Nobel de littérature dans les années 1990. Pourtant, 10 ans après sa mort en France, son absence est criante. Trop peu de ses livres sont lus en dehors des cercles universitaires internationaux et peu sont édités au format de poche. Édouard Glissant est un poète, avant tout. Il s'est battu sans relâche pour que les Antilles et la Caraïbe se révèlent au monde, comme il le dit dans sa thèse monumentale « Le discours antillais », publié en 1981. C'est parce que les réalités politiques et sociales de la Martinique sont occultées de toutes les manières possibles qu'il m'a paru indispensable de porter le regard sur nous-mêmes d'abord, sur ce qui a grossi en nous d'indicible ou d'irrepérable. Cette vision est une poétique. Une poétique puissante qu'il nous reste à entendre.
L'acte d'écrire, pour Glissant, était un acte poétique. Hein. Ça relève de la créativité, de la création artistique. Mais l'acte poétique, c'est véritablement cet acte qui permet de se connecter immédiatement à ce que l'humain a de plus humain. C'est-à-dire à ce moment, à ce lieu particulier où la sensibilité humaine n'est pas simplement régie par la raison ou la rationalité, mais où toute la présence de l'impossible à concevoir, de l'impensable, de l'imprévisible, de l'invisible, tout ça est présent dans la réalité humaine. Et l'homme se construit, il habite son imaginaire. Ce qui fait que l'acte poétique, c'est véritablement cet acte qui permet à un être humain de vivre dans une bulle mentale qui est son imaginaire, sachant que cette bulle mentale intègre à la fois la réalité, c'est-à-dire l'ordre dans lequel apparemment on vit, et toute une ouverture sur, ou toute une relation, je dirais, à la totalité du vivant. Et quand on a un grand acte artistique, il est immédiatement politique. Il est politique en ce sens qu'il s'intéresse, je dirais, à une élévation de la réalité humaine. Donc, toute l'œuvre d'Édouard est une œuvre éminemment politique parce qu'elle est profondément politique.
Face à cet échiquier immense où se joue le sort du monde et qui est aujourd'hui, face à ce point d'interrogation que représente demain, avec cependant une traînée de poudre d'espoir, nous, faiseurs de bataille, car c'en est une, et une vraie, que se livre actuellement dans ce lamentin jeté, à coups de prêches et de sermons et de morales rabâchées sur le pavé nu de l'esclavagisme. Nous vous avons réunis ici à la veille d'une lutte décisive, alors que tout jusqu'à présent n'a été qu'engagement précurseur et accrochage de patrouilles d'avant-garde. La révolution sociale sera faite au nom du pain, bien sûr, mais aussi au nom de l'air et de la poésie, ce qui revient au même. Il nous faut tout refaire, minuit, les rues, le silence, la coupe de Cannes, l'air et la constitution. Poésie, donc, notre première arme, et ici elle signifie investigation, étude de soi, repliement sur sa conscience propre, étude des données de son inconscient, tout un continent neuf à explorer, tout un travail à mener à bien. Réunion du groupe Frangeux et de ses soutiens, 1946, Le Lamentin, allocution d'Édouard Glissant.
Maman la grève barrez-moi, maman la grève barrez-moi, maman la grève barrez-moi, monsieur Michel, pas les bails des foins. Maman la grève barrez-moi, maman la grève barrez-moi, maman la grève barrez-moi, monsieur Michel, pas les bails des foins. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 monsieur Michel, pas les bails des francs. Ouais, 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 monsieur Michel, pas les bails des francs. Moi, sorti la montagne, pour moi, t'es descend en ville. Malgré tout ça, moi, dis yo, monsieur Michel, pas les bails des francs.
Adolescent, il militait déjà avec ses camarades de Frangeux.
Juliette Éloi Blaisès, professeure de littérature à l'IME.
Il militait au Lamentin et il raconte comment le soir, ils aimaient traverser le bourg du Lamentin en hurlant à tue-tête des poèmes d'Aimé Césaire. Et ce texte, finalement, me semble important parce que il me semble qu'il annonce déjà le futur Glissant, le futur écrivain, le futur penseur, parce que il a été écrit par un jeune adulte de 18 ans. Il venait de réussir au baccalauréat, donc nous sommes en 1946. Il est vraiment à la veille de son départ pour la France. Et ce texte, finalement, me semble être une espèce d'embryon de ce qui deviendra l'œuvre de Glissant après maturation, après une longue maturation.
Le prix qui en France Renaudot 1958 a été attribué à la Lézarde d'Édouard Glissant. Par 5 voix, l'outrage de Paul Tillard a obtenu 4 voix et il y a eu un bulletin blanc.
Édouard Glissant, je crois que c'est là votre premier roman, La Lézarde.
Oui, c'est mon premier roman. J'avais écrit des recueils de poèmes avant, mais enfin, dans le domaine romanesque, c'est mon premier ouvrage.
Qu'est-ce qui vous a fait glisser d'un domaine à l'autre ?
Le besoin de récupérer des détails que l'on ne peut pas mettre dans un poème, parce que l'écriture poétique est beaucoup plus schématique que l'écriture romanesque et survole davantage les choses.
Mais vous dites récupérer des détails, ça veut dire des détails de votre expérience personnelle ?
Des détails de la vie de mon pays, c'est surtout cela que j'ai voulu montrer.
Vous voulez alors nous résumer votre roman ?
C'est un peu difficile, mais enfin, c'est l'histoire d'un groupe de jeunes gens à la Martinique qui, à la fin de la guerre, s'ouvre à la vie politique. Et ils ont comme seul acquis culturel le passé de légendes et de contes qui vient de l'Afrique. Et ils doivent parcourir tout le chemin depuis ce monde légendaire, très poétique, et qui chez eux est un peu puéril, jusqu'au monde de la politique qui se révèle pour eux un peu cruel et un peu âpre.
Édouard Glissant, dans ces années-là, il est d'abord en France.
Edwy Plenel, journaliste et ami d'Édouard Glissant.
Quand l'œuvre d'Édouard démarre avec Les Indes, avec Soleil de la conscience, puis avec La Lézarde, il faut imaginer un jeune Martiniquais amené, comme il le dit, à une solution française, associant le regard du fils et la vision de l'étranger, qui est emporté, et c'est le point commun avec Frantz Fanon, par les luttes de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Il faut se dire, très concrètement, que c'est un jeune homme d'extrême-gauche. Il est proche des mouvements trotskistes, de l'opposition de gauche au stalinisme. C'est comme ça qu'il se retrouvera à signer le manifeste des 121 pour l'insubordination en Algérie. Donc Édouard Glissant, il est ancré là-dedans. Qu'est-ce que c'est que la Martinique des années 50? C'est un pays où il y a beaucoup de pauvreté, où il y a encore de l'analphabétisme, et où la situation coloniale est criante, avec la minorité béquée, antillaise, issue du monde esclavagiste, qui possède, comme c'est toujours le cas aujourd'hui, toute l'économie de l'île, mais qui la possède avec une idéologie profondément raciste, de civilisation supérieure, de dédain pour la masse de la population antillaise. Mais nous sommes dans ce contexte des années 50, des indépendances, du congrès des écrivains noirs à la Sorbonne, puis en Italie, de Bandung, c'est en 56, un an après, de la guerre d'Algérie, de la révolution cubaine qui arrive fin 59, début 60. Et donc, dans ce contexte, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe qu'il y a une jeunesse à la Martinique, et Édouard Glissant en est le héros, au sens du récitant. La Lézarde est un roman de l'apprentissage politique, est un roman de l'engagement, est un roman de comment une jeunesse s'ébranle. Eh bien, cette jeunesse va s'ébranler, ce sera ce qui se passera avec les émeutes de décembre 59, puis après le front antillo-guyanais pour l'autonomie, puis après l'organisation de la jeunesse anticolonialiste martiniquaise, l'OJAM, qui sera durement réprimée, cours de sûreté de l'État, prison, et ainsi de suite. Édouard Glissant sera réprimé, il sera interdit, comme mon père d'ailleurs, ils ne pourront pas aller sur le territoire de la Martinique pendant quelques années. Le département leur sera interdit par pure décision de police. Cela entraînera pour Édouard des conséquences en termes de travail, de métier, de profession. Il devra s'inventer lui-même. Et donc, nous sommes dans ce bouillonnement.
Les Indes et le soleil de la conscience sont deux recueils de poésie écrite par un poète martiniquais, Édouard Glissant. Ce sont deux recueils bien différents. L'un est un poème épique, une épopée, Les Indes. L'autre est un poème plus intime, un poème pour une seule personne, un poème à une place. C'est le bilan, si vous voulez, de 8 ans de présence parisienne, de présence à Paris plutôt. Édouard Glissant, il parle de toutes les rencontres qu'il a fait successivement avec ce qu'il attendait de Paris et ce que Paris était, avec la solitude de Paris, avec aussi ce que représente Paris dans le temps, dans tout le passé d'une certaine culture. Et il découvre successivement des choses extrêmement différentes. La neige, par exemple, vous.
Oui,
j'étais frappé
oui.
par cette découverte de la neige que vous faites.
Oui, la neige m'a intéressé à mon arrivée à Paris. D'une manière peut-être moins spectaculaire que le flamboyant n'intéresse le touriste à la Martinique. Et je me souviens que c'était dans un hôtel des environs de la gare Saint-Lazare en 46, et que, en voyant tomber la neige, je me suis dit, enfin, ça y est. Tout ce dont on m'avait parlé durant mon enfance, je suis en train de l'éprouver physiquement. Et je me souviens que j'ai écrit à mes amis à la Martinique mes réflexions sur la neige, et que probablement ça a été une des origines du soleil de la conscience.
Il est né dans le nord de la Martinique, un quartier Bezaudet,
Et il dit se souvenir de cette traversée vers la plaine du Lamantin, donc vers le bas, hein. Il part du haut, il va vers le bas, vers la plaine du Lamantin, et il en a fait une petite mythologie. Et dans tous ses romans, ses poèmes, ses essais, il y a de petites mythologies qui sont liées directement à sa vie. Et ces mythologies vont s'inscrire dans une poétique. Ce qui fait que c'est intéressant parce que ce n'est pas simplement une construction intellectuelle qu'il pratique, ce n'est pas une démarche d'intello qui va dire « bon, voici les données de base, l'histoire, le ceci, la décolonisation ». C'est véritablement une existence, un petit négrillon qui connaît les plantations, qui apprend à lire, qui aime la poésie, qui a tout un paysage, etc. Et tout ça va constituer un cheminement quasiment organique, quoi. Tout est organique chez Édouard.
Lorsque paraît le premier soleil, la lézarde surprise en son détour semble là s'assoupir, guetter l'astre, jouer à la dame, prudente. Puis soudain elle bondit, c'est comme un peuple qui se lève, elle débouche d'angle en angle, et elle rattrape bientôt les écumes qu'elle a laissées sur ses rives, avaricieuse, occupée de toutes ses richesses. Et la voilà dans le grand matin, joyeuse et libertine. Elle se déshabille et se réchauffe. C'est une fille nue et qui ne se soucie des passants sur la rive. Elle baigne dans sa promptitude éternelle et l'eau passe sur l'eau. Et aux abords de la ville, la lézarde s'humanise. Elle aménage des bassins et des criques bordés de roches. Les femmes viennent y laver le linge. Elles s'installent près d'une pierre de table. L'eau sur leurs jambes noires se vêt de transparence. Et moi, enfant, l'enfant de cette histoire et qui grandit à chaque mot, j'accompagne les femmes, je me roule sur le sable, je pêche sous les roches mon écrevisse du jour que j'irai brûler sur un petit boucan dans la savane.
Le personnage central de son roman La Lézarde, c'est pas simplement les personnages. Le personnage central, c'est une rivière. Vous voyez, le paysage est déjà quelque chose de différent. C'est vraiment la rivière elle-même qui devient le personnage du roman. Et cette rivière va aller vers la mer. Et il y a tout un cheminement romanesque qui va amener les personnages vers le delta. Et le delta, c'est le lieu où s'ouvre la mer, et la mer, c'est aussi l'ouverture sur quelque chose qui lui paraîtra très évident, qui va être l'ouverture sur le monde. Il aimait beaucoup la mer, hein, et voir l'océan, il y a beaucoup de textes hein, chez lui où il parle de l'océan. L'océan a toujours constitué pour lui une problématique majeure, parce que l'océan, c'est le lieu de la traversée fondatrice, c'est-à-dire tous ces millions d'Africains qui ont été radiés sur les côtes de l'Afrique et qui doivent affronter plusieurs semaines, parfois jusqu'à 3 mois, de traversée dans des conditions qu'on ne peut même pas imaginer. Donc il aura tout son concept lié à la traversée, qui va être le concept du gouffre de la cale, où va se constituer non pas une genèse traditionnelle, mais ce qu'il va appeler une digenèse. L'Africain qui tombe dans la cale du bateau négrier voit toutes ces cosmogonies, ces mythologies, ces dieux, ces langues, ces certitudes, toute son identité coutumière, traditionnelle, ancienne, tout ça est disloqué.
1, 2 Qui, profitant d'une mégarde des chiourmes, tourne son âme vers la mer, il s'engloutit. Un autre abattardi, dont le corps est sans prairie, sans rivière, sans feu. Un qui meurt dans sa fiente consommée à la fétidité commune. Un ici qui sait sa femme enchaînée près de lui. Il ne la voit, mais il l'entend faiblir. Et un qui sait sa femme nouée au bois là-bas d'un négrier. Il ne la voit, mais il l'entend partir.
Et quand il va sortir de la cale, non pas avec des ensembles bien constitués, mais avec des traces, c'est-à-dire des espèces de survivance mémorielle, mnémotechnique, corporelle, avec lesquelles il devra organiser sa survie. Et ceux qui survivent, ce sont ceux qui parviendront à à mobiliser des traces et des débris et des ruines et des douleurs pour en faire quelque chose. Et dans cette reconstruction lente de leur humanité, il y aura déjà le clapotis de l'océan. Là, ils vont entendre à travers la paroi du bateau, il y aura toujours la présence de la mer, de l'océan, bien sûr, des requins qui suivent les bateaux négriers, mais de la vaste rumeur obscure des abysses de l'Atlantique. Et ce qui était terrible, parce que comme généralement, ils avaient beaucoup chargé les bateaux négriers, le capitaine n'avait pas assez d'eau, pas assez de riz, pas assez de mil, en fait, tout ce qu'il leur donnait à manger. Et pour pouvoir survivre, en tout cas garder quelques-uns en vie en leur donnant encore de l'eau et en leur donnant à manger, eh bien, ils jetaient carrément des rangées entières d'esclaves à l'eau. Donc, Glissant a toujours cette vision du fond de l'Atlantique tapissé de boulets, de chaînes et de d'ossements d'esclaves.
Un encore dont le gourdin a cassé quelques côtes, mais on punit le marin peu économe du butin. Et un qu'on mène sur le pont une fois la semaine, que ses jambes ne pourrissent. Un qui ne veut marcher, immobile en sa mort déjà, qu'on fait danser sur la tôle de feu. Un qui attend l'inanition, il se refuse à avaler le pain mouillé de salaison, mais on lui offre de ce pain ou du fer rouge sur la flamme qu'il choisisse.
Donc l'Atlantique, c'est vraiment un lieu très très particulier, c'est un lieu de douleur, mais c'est aussi le lieu d'une histoire nouvelle, parce que cette histoire nouvelle, tous ces cadavres qui vont tapisser l'Atlantique vont créer une sorte de tissu mémoriel, de tissu douloureux, mais aussi de tissu relationnel entre toutes les îles de l'archipel des Antilles. Et c'est pourquoi Glissant n'aura jamais une vision, je dirais, classique de l'archipel. On a tendance à voir l'archipel comme des isolats. Il aura toujours une vision organique de la notion d'archipel.
Mon histoire, c'est aussi la Caraïbe. Et moi, je dis que la Caraïbe est un des lieux exemplaires du monde actuel. Et la Caraïbe, ce n'est pas une mer entourée de terre, ce sont des terres entourées de mer. C'est divergent, ça explose, ça part dans toutes les directions. On y passe. Les races et les cultures différentes y arrivent, se mélangent, etc. Et pour moi, c'est un phénomène passionnant à ausculter en ethnologue de soi-même et non pas en ethnologue objectif dans le monde actuel.
Il considérait qu'il était important pour un individu de se situer d'abord dans son lieu.
Juliette Éloi-Blaisest.
Il avait été interdit de séjour dans son propre pays depuis 1961 et cette interdiction a été levée en 1965. Donc il est rentré à la Martinique et il crée l'Institut martiniquais d'études en 1967. Et c'est une fois que je serai plongé à l'IME que je vais me rendre compte que l'IME n'a rien à voir avec les établissements où j'ai fait mes études au pensionnat dans les années 50-60 et les établissements où j'ai pu faire des remplacements. Donc l'IME, c'est une école privée, Institut Martiniquais d'études. Et dès le titre, Glissant affiche son projet d'inscrire l'enseigné et l'enseignant, bien entendu, dans le réel martiniquais. Parce que jusqu'alors et jusqu'aux années, disons, 80, les programmes dispensés aux Antilles n'avaient aucune différence avec les programmes dispensés en France hexagonale. Je me rappelle que la géographie martiniquaise, on l'étudiait très rapidement, très succinctement en classe primaire. Et on considérait qu'à partir du moment où on entrait en sixième, on n'avait plus besoin de ce savoir primaire et qu'il fallait étudier la géographie de France, la géographie européenne, l'histoire de France, l'histoire européenne. Donc, le projet d'Édouard Glissant, c'était de changer la manière d'enseigner, c'était de changer le rapport à la transmission et surtout de changer les thèmes de la transmission. Glissant avait créé un poste de sociologie et la sociologie était enseignée en seconde et en première. Et avec cet enseignement, c'était le moyen, là encore, d'ancrer vraiment l'élève dans le réel martiniquais.
Là où qu'à monter, il faut qu'on prenne précaution.
Mille à manger, tu es Milo.
M'en vais jamais, dis-moi, liché mon nom.
Milo, dis-moi, fais attention, mon nom.
La jalousie qui fait mon divague.
Mille à manger, tu es Milo.
Où dans le pays, tout bagaille, c'est magie.
Mille, dis-moi, fais attention, mon nom.
M'en vais jamais, dis-moi, liché mon nom.
Mille à manger, tu es Milo.
Le récit colonial, donc l'histoire racontée par les maîtres, est très littéral, chronologique, avec des dates, etc., etc. Mais lorsqu'on quitte ce récit, on tombe dans une espèce de narration qui est beaucoup plus obscure, plus incertaine, plus questionnante, plus vertigineuse, en fait quelque chose qui va ressembler finalement à l'esthétique littéraire de Glissant. On entre dans un domaine où le récit n'a pas vocation, n'a pas de maîtrise sur le paysage. Le récit n'a pas de maîtrise sur le destin des hommes. Le récit, à partir du conte et de l'oralité créole, n'aura pas de psychologie, de personnage absolument profonde. Il va véritablement rentrer dans une esthétique qui sera complètement différente de celle du maître. En tout cas, la mémoire antillaise s'exprime selon des modalités d'une mémoire nouvelle. Et la narration de cette mémoire nouvelle, elle est très, très, très riche pour Glissant parce que je pense qu'elle va constituer le socle de son esthétique littéraire et de son esthétique tout court. C'est-à-dire ce dispositif avec lequel il va vivre sa vie, organiser non seulement sa résistance, mais aussi organiser sa lecture du monde.
On revient toujours à cette histoire du récit de chasse qui ne sera pas pareil selon qu'il est raconté par le chasseur ou par l'animal chassé. Donc, il était pour Édouard Glissant important de retrouver ses racines. Et c'est dans un autre roman de Glissant, le IVe siècle, l'un des personnages principaux qu'on a découvert dans La Lézarde, Mathieu Belluse, sera le personnage principal du IVe siècle. Et pendant des années, il va monter en haut d'un morne, d'une colline, pour entrer en contact avec le vieux Longué, papa Longué, qui est un quimboiseur. Le quimboiseur, c'est une espèce de marabout. Un quimboiseur qui voit. Il voit l'avenir, mais il voit aussi le passé. C'est ce que Glissant appelle, d'ailleurs, la vision prophétique du passé. Et pendant des années, le jeune Mathieu va partir du bourg du Lamentin, du plat du Lamentin, pour gravir le morne qui le mène devant la case de Papa Longoui. Vous entendez la pluie? Allô?
Édouard était, comme moi-même d'ailleurs, très attentif à ce qui se passait dans le paysage quand il n'y avait pas de soleil, quand le ciel n'était pas bleu et qu'il pleuvait, même si nous préférons une belle journée de soleil pour aller nous baigner, etc., etc., il est sûr que regarder le paysage antillais quand il pleut, c'est déjà prendre un écart assez colossal avec la vision paradisiaque habituelle qui nous fait tant de mal, en tout cas qui cache les réalités historiques, humaines plus profondes. La vision que généralement les gens de l'extérieur ont de nos îles, c'est le côté sable blanc, ciel bleu, côtier, etc. Et c'est Césaire lui-même qui disait « Nous avons un paysage, il faut en faire un pays ». Et Édouard s'est toujours situé dans cette logique-là, c'est-à-dire comment briser la vision paradisiaque et chercher sous cette vision paradisiaque qui était très liée à la perception coloniale et à la pratique coloniale, comment trouver une réalité historique, culturelle, identitaire, humaine, relationnelle, très juste. Par exemple, une des lectures que va faire Glissant du paysage, c'est qu'il va distinguer très rapidement ce qui appartient aux hauteurs, c'est-à-dire que la Martinique, c'est beaucoup de mornes, il y a la grande montagne Pelée, et tout le reste, ce sont de petits volcans, plus ou moins éteints, généralement éteints, qui constituent ce qu'on appelle des mornes. Donc c'est un paysage très, très chaotique. Et entre tous ces mornes, il y a les parties plates, qui sont assez rares, mais qui existent, ou parties plates ou en pente, où les habitations coloniales s'étaient installées. Ce qui fait que lorsqu'un esclave fuyait l'habitation coloniale, il voulait échapper aux chaînes, il montait dans les mornes. Ce qui fait que dans la lecture paysagère de Glissant, la hauteur va constituer le lieu de la liberté. Et le bas du paysage, c'est-à-dire les plaines, les coulées, les habitations, les boues au bord de mer, vont constituer la partie d'acceptation de la servitude, mais aussi de la colonisation. Mais là où il va complexifier le problème, c'est que dans l'esthétique césarienne, c'est le nègre marron qui va constituer le héros majeur, c'est-à-dire celui qui quitte l'habitation et qui va refuser la servilité et qui va s'enfuir dans les forêts des hauteurs. Et alors que chez Glissant, il va ajouter au nègre marron un autre héros tout à fait inattendu qui, lui, est resté dans la plantation et qui va pratiquer ce que Glissant appelle le détour. Alors le détour, c'est le fait que l'esclave apparemment semble accepter ses chaînes et la soumission, mais de manière tout à fait secrète, détournée, obscure. Il va empoisonner les animaux, il va casser les outils, il va même empoisonner le maître. Enfin, il y a toute une résistance qui s'inscrit dans une apparente servilité. Et Glissant expliquera que dans la plantation, il y a à la fois l'acceptation et le refus.
Ils n'eurent pas le temps de réfléchir à ce qui se passait sous leur peau écaillée, ni de respirer cette odeur de poussière épaisse macérée dans le café vert. Ils avaient un travail urgent et long. Il fallait courir partout et expliquer. Vous n'êtes pas obligé de travailler. Si vous travaillez, il faut être payé, arrêté partout. Depuis 10 ans, l'esclavage est mort. Nous tombons toujours dans la nuit. Arrêté, arrêté partout. Maintenant, l'habitation n'est plus la prison. Il faut fermer les ateliers. Arrêté, arrêté partout. Depuis combien de 100 ans cette terre-là broie notre sang? Nous coulons dans cette terre-là, arrêtés, arrêtés partout. Aujourd'hui, il n'y a plus l'homme de couleur libre et l'esclave africain. Aujourd'hui, tu plantes ta racine toi-même. Arrêtés, arrêtés partout. Imaginez, partout sera en verdure, la branche en étoile sur ta tête, la racine sous tes pieds. Imaginez, tu peux monter dans les bois sans fin, les chiens crient en bas, ils ne montent pas. Oh, Acajou, Akoma, barre le chemin, arrêtez, arrêtez partout.
Va aller Glissant dans l'habitation esclavagiste et il va essayer de comprendre comment tous ces hommes qui ont été complètement dévastés par la traversée, comment ils vont reconstituer, retricoter leur humanité perdue. Et ce qu'il va distinguer, ce sont très rapidement toute cette trajectoire obscure qui va être la trajectoire de la résistance. Alors la résistance antillaise va se faire d'abord par le tout premier résistant qui sera le danseur. Le danseur va exprimer la mémoire corporelle africaine, donc une mémoire pratiquement irréductible qui est liée à ses chairs même. Il exprime une polyrythmie africaine. Il sera accompagné par le tambourier, celui qui tient le tambour. Le danseur et le tambour vont donner naissance au chanteur. Donc il y aura des mélopées africaines et puis progressivement de nouveaux chants qui vont apparaître avec la langue créole qu'ils vont trouver dans la plantation. Et puis le chanteur va donner naissance à celui qui sera d'une certaine manière le père du langage antillais, le père, je dirais même, de la littérature antillaise, qui va être le conteur créole. Et le conteur, qu'est-ce qu'il va faire? Ça sera des proverbes, des titimes et des contes. Et Glissant va essayer de retrouver cette mémoire perdue dans tout, je dirais, dans tout le corpus de l'oralité. L'écrivain, pour Édouard Glissant, c'est quelqu'un qui va refuser, en tout cas, qui ne pourra pas s'inscrire dans le principe d'une langue atavique, verticale, conquérante, dominatrice, qui hiérarchise le rapport aux autres langues et qui a tendance à se créer une sorte de solitude au monde, mais véritablement dans quelque chose de plus diffus, de plus horizontal, de pas du tout conquérant, mais qui reste sensible à toutes les langues du monde qu'il va appeler le langage. Ce qui fait qu'on peut dire qu'Édouard Glissant n'écrit dans aucune langue connue sur Terre, il écrit dans un langage qui est le sien. Lui, tout de suite, il va mobiliser, bien sûr, la base lexicale française, mais aussi tout l'imaginaire de la langue créole et aussi le lexique de la langue créole. Donc, on est déjà dans un magma linguistique. Et ce qu'il va produire dans ce magma linguistique, ça ne sera pas simplement une association entre langue créole et langue française, ça sera véritablement une catastrophe esthétique. Et dans cette catastrophe, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, tout à coup, l'écriture va s'en constituer non pas en référence à une langue élue, qui aurait pu être la langue française pour les écrivains aliénés, par exemple chez nous, ou la langue créole pour les écrivains militants, linguistiques, qui recherchent une identité à l'occidental. Non, ce qu'il va véritablement créer, ça sera véritablement un désir, moi j'appelle ça le désir imaginant de toutes les langues du monde.
Édouard, c'est comme un musicien, et en ce sens, cela a à voir avec le jazz, c'est comme un musicien qui, avec la même histoire musicale, le même imaginaire musical, arrivait à l'improviser de manière différente tout le temps. Et ce n'est jamais de la répétition. C'est toujours une autre vision qui approfondit la vision précédente. Je pense que ce moment d'exil franco-américain est un moment où, en fait, il ramasse tout. Et arrive ce moment, en effet, à partir de Poétique de la relation, à partir de Traité du tout-monde, où, j'allais dire, d'essai en essai, il va déployer toute son œuvre. Et il invente un style, d'ailleurs, tous ces traités, tous ces petits essais, d'où aussi les manifestes politiques, les interventions dans le débat public, qui vont déployer et aussi rendre accessible son œuvre.
Sylvie Sémaglissant, c'est dans les années 90 qu'Édouard Glissant met sur le papier, dans différents essais, Poétique de la relation en 1990, Le traité du tout monde en 1997, la définition assez claire et précise de tous ces poéceptes, tous ces concepts poétiques qui font sa pensée. Pourquoi dans les années 90 Il est aux États-Unis à ce moment-là, il est professeur à l'université de Baton Rouge, puis à New York. Est-ce qu'il y trouve peut-être une inspiration qui lui permet de définir ses concepts avec clarté?
C'est vrai que...
Sylvie Sémaglissant, directrice de l'Institut du Tout-Monde et femme d'Edouard Glissant.
Il y a toute une itinérance de cette vie. L'itinérance, d'ailleurs, dans l'itinérance, il y a le mot de errance, qui pour lui était la définition même, d'ailleurs, du voyage, hein, qui est là où le monde nous porte. Pour lui, l'œuvre de Faulkner a été extrêmement importante, et je pense que ça a été, d'ailleurs, le premier voyage, si je puis dire, qu'il ait fait dans le sud des États-Unis, c'est celui de Baton Rouge jusque dans le Mississippi, dans la maison de Faulkner. Et il disait aussi une autre chose, c'est que les paysages, il disait, sont nos monuments. C'est-à-dire qu'il renferme en fait tout de nous. Les paysages sont avant tout constitués de nous-mêmes et ils nous constituent. Et cette vision de la mangrove qui est à la fois est la rencontre de la terre, de l'eau salée et de l'eau de source qui vient de cette terre volcanique qui émerge là. Et dans la mangrove aussi, il y a aussi ces racines qui éclatent, qui se rejoignent en rhizome. C'est un enchevêtrement comme ça de relations, de liens, de tout s'échange. Il y a une sorte de dialogue.
Cet élément de rhizome est un élément très très important dans notre sol, dans nos cultures. Nous avons plein de plantes à rhizome à la Martinique, ne serait-ce que le manioc ou l'igname. Quand on déterre un igname, il y a peut-être un gros igname, et puis à côté, il y en a plein de petits. Donc, c'est une réalité biologique. La notion de rhizome, lui est venue à partir de la lecture et de la discussion avec les philosophes Deleuze et Guattari. Et Glissant établit une différence entre la racine qui s'enfonce dans le sol et le rhizome qui envoie de petites racines à la rencontre d'autres racines. Et pour lui, il vaut mieux la racine rhizome, parce que la racine rhizome suggère la mise en relation avec l'autre, hein, avec même si cet autre est différent, hein, tandis que la racine unique finalement suggère que l'on s'enferme dans son identité, et l'identité racine pour lui est synonyme donc de rejet de l'autre, tandis que l'identité rhizome permet au contraire d'arriver à l'imprévisible qui naît de la rencontre de différences. Et c'est pour cela qu'il utilise le mot créolisation.
Alors bien sûr, toutes les cultures et les civilisations sont des mélanges, sont des synthèses, les civilisations se sont toujours émulsionnées entre elles. Mais ce qui se produit dans la créolisation, c'est que de manière massive, brutale, terrible, un temps très très court, toutes ces cultures et civilisations vont produire quelque chose d'absolument imprévisible et qui va rester imprévisible dans la mesure où ce qui va émerger de l'habitation esclavagiste va rester relié à des flux relationnels qui viennent du monde. Et ça nous a permis, nous, générations qui venons après Glissant, ça nous a permis de mieux comprendre qui nous étions, que nous étions à la fois autant africains qu'amérindiens, qu'occidentaux, qu'asiatiques, et que tout ça constituait une entité que nous ne devions pas chercher à fixer ou à immobiliser, comme le faisait le discours colonialiste, mon identité, ma peau, ma langue, etc., mais véritablement à vivre comme complexité précipitée dans les flux relationnels du monde. Ce qui fait que quand il dit que le monde se créolise, c'est qu'il veut dire non pas que le monde devient créole, comme moi je suis créole américain ou créole martiniquais, mais ça veut dire que le monde comprend brusquement qu'il est fait de diversité, qu'il est fait de diversité précipitée dans une émulsion qui est l'émulsion de la relation. Le monde prend conscience qu'il n'est pas constitué d'absolu, mais que ce qui fait désormais le biotope vital de toutes les collectivités, de toutes les cultures, de toutes les civilisations, c'est véritablement le tout monde.
Que signifiait pour Édouard Glissant sa direction du courrier de l'UNESCO ? Parce qu'il était au cœur même d'un appareil de traduction, puisque le courrier de l'UNESCO était publié en 26 langues, donc dans des pays très différents, et c'était un peu le cœur de cet échange de culture. Que trouvait Édouard Glissant à ce poste de direction du courrier de l'UNESCO qu'il a occupé pendant de 81 à 1988 ?
Oui, je pense que c'était une étape assez importante pour lui, dans cette vision même du tout monde, dans ce qu'il appelait l'imaginaire des langues. Ce rapport aux langues et à la traduction, évidemment, était très très important pour lui. D'ailleurs, il n'a cessé de vouloir augmenter en fait le nombre de traductions du courrier UNESCO, qui, je pense que quand il est parti, était passé à 36 langues.
Dans cette pratique de la traduction qu'il vit à la direction du courrier de l'UNESCO, j'ai l'impression qu'il développe une pensée quasiment politique de la traduction, oui, comme justement l'expression de la mise en relation des différents peuples du monde.
Oui, c'est tout à fait juste. Et d'ailleurs, il aimait beaucoup le mot de translation, c'est-à-dire ce passage, cette traversée. Donc, qui permettait la relation, en fait, et le dialogue. Ça rejoint, je pense, la notion de frontière. Pour lui, la frontière n'est pas faite pour séparer, pour préserver d'un côté, de l'autre, mais au contraire, pour permettre le passage.
En 2006, est créé l'Institut du Tout-Monde, dont vous prenez la direction à la demande d'Édouard Glissant. Que voulait faire Édouard Glissant au travers de cette structure ?
Il avait cette idée toujours, vous savez, de comment se constituent nos lieux communs. Je pense que l'Institut du Tout-Monde était un lieu traversant, un lieu où des pensées du monde dialoguent avec d'autres pensées du monde. Évidemment, Édouard avait aussi décrit cette autre région, cette nouvelle région du monde, hein, qui apparaît et dans laquelle nous entrons tous ensemble. Il nous parlait de quoi ? Il nous parlait, je pense, de ce nouveau temps de la relation qui propose une connaissance de ses contacts qui se sont constitués en de véritables événements et qui ont fondé, d'ailleurs, je pense, de nouveaux langages. Ces langages qui ne cessent de s'inventer.
Si nous considérons la Terre entière comme un élément fini, alors nous nous condamnons nous-mêmes. Il faut considérer la Terre entière comme un infini. Et c'est pour cela que je dis le tout monde. Le tout monde, c'est la projection du monde tel qu'il va nous réunir tous. Mais ce qui n'est pas encore fait. Et c'est ça notre horizon. Et cet horizon-là, il est infini. Nous avons toujours à le poursuivre.
Nous avons cru que le monde est stable. Non, le monde n'est jamais stable. Le tout vivant du monde et du tout monde, c'est un tremblement permanent. Édouard parle, pense, comme Césaire, depuis des terres qui nous ont appris. La terre tremble, les volcans crachent, la mer fait des raz-de-marée, le ciel fait des cyclones, tout ça bouge, tout ça est là. Et d'ailleurs, ce sera son anthologie poétique à la fin, elle est pour dire ça. Donc tremblement, le tremblement, vivre avec le tremblement, accepter de vivre avec le tremblement, ne pas essayer de se rassurer dans la fixité, dans l'immobilité, dans la tranquillité. Penser dans cette inquiétude, c'est aussi ça, Édouard Glissant.
Rien n'est vrai, tout est vivant. Oui. Il est sûr que les dernières années, Édouard Glissant très souvent terminait toutes ses interventions par cette phrase. C'était comme c'est ce qu'il voulait transmettre, finalement. Il n'y a pas de vivant vrai avec un grand V. Il n'y a que des vivants avec un mélange au départ et un mélange tout au long de la chaîne du vivant. Peut-être pour entrer un peu dans cette pensée, dans cette œuvre qu'il a, il faut peut-être commencer par la fin, et je pense qu'il faut peut-être commencer par entendre cette dernière phrase, et après remonter l'œuvre, remonter la poétique, remonter la pensée, mais partir peut-être de cette simplement de ce rien n'est vrai, tout est vivant.
Pour dire ce qu'est la relation ou pour dire ce qu'est le tout le monde, il faut associer plusieurs indéfinitions. Il veillait à rester dans l'indéfinition. Ce qui fait que les concepts tout le monde, relation, sont des concepts qu'il nous faut vivre, qu'il nous faut habiter et qu'il nous faut nous-mêmes étendre aux réalités que nous percevons. Ce n'est pas un dogme avec lequel on va frapper la réalité du monde. Donc c'était peut-être ça son autorité esthétique qui était de tenter une saisie du réel sans emprisonner le réel. J'ai toujours été frappé, hein, si on va voir de jeunes Antillais immigrés dans les banlieues, je leur parle, il est plus facile de leur dire nègre, la négritude, les blancs, les occidentaux, ça mobilise plus que si on entre dans toutes les subtilités, les mélanges, les complexités, l'imprévisible de la relation. Ce qui fait que la poétique de la relation n'est pas mobilisatrice, elle n'est pas manichéenne, elle nous précipite dans une complexité qu'il faut vivre et dans laquelle il faut se tenir debout. Il aimait bien, il s'est toujours méfié de la transparence, parce qu'il savait que l'acte colonial, par définition, était un acte de mise en transparence du monde. Le colon arrive, le conquérant, le conquistador arrive, il ne comprend pas l'autre, l'autre est opaque pour lui. Donc la colonisation a toujours été un acte de mise en transparence du monde. Et dans ces textes, effectivement, il est très opaque. Ce qui fait que Édouard Glissant est très difficile. La poétique de la relation, c'est véritablement rentrer dans une incertitude, dans quelque chose de pas facile à vivre. En tout cas, le mot d'ordre de combat est très très difficile à élaborer. Ce qui fait que chaque fois qu'il y avait dans le monde, dans le quotidien, un phénomène, une émergence, une brutalité, il disait, mais il faut qu'on essaye d'appliquer sur ce phénomène-là la poétique de la relation, pour bien montrer aux gens que ce que je dis n'est pas si obscur et ni si abstrait, quoi. C'est pas une construction intellectuelle stérile, mais c'est véritablement une clé de lecture pour le monde.
Il y a un mot clé chez Édouard. Opacité. L'opacité, c'est pas l'obscurité. Et le propos d'Édouard Glissant, c'est de nous dire que pour accepter l'autre, pour rencontrer l'autre, et donc pour se rencontrer soi-même, il faut accepter sa part d'opacité. Il faut accepter que l'autre a quelque chose d'irréductible. Quelque chose qui est à lui, quelque chose que l'on n'essaye pas forcément de savoir, pas forcément d'identifier, pas forcément de fixer, de dévoiler. On vit dans cet incertain de l'opacité. Et donc, l'opacité, c'est aller jusqu'au bout de cette question de l'autre. c'est accepter l'autre tel qu'il est.
Ce qu'on appelle le tout-monde, bien sûr, c'est la réalité de la mondialisation, mais c'est aussi toute la mondialité, tous les individus, tous les peuples, tout le vivant. Donc c'est une réalité qui ne saurait être réduite à une simple opposition ou à un simple dépassement de la colonisation. Et cette complexité-là, elle est encore très difficile à percevoir. Ce qui fait que on dit Césaire Fanon glissant, mais ce qui domine encore, c'est Césaire Fanon, sachant que les lectures qui sont faites de Césaire Fanon sont des lectures qui sont dans ce triptyque, à mon avis, qu'il faudrait dépasser, qui est colonisation, décolonisation, post-colonial, décolonial, colonialité, qui sont des petits combats, qui sont des combats importants, mais qui ne sauraient limiter ce que nous avons à faire. Cet immense travail de considérer le phénomène humain de manière horizontale, transversale, dans une réalité vivante, cet immense travail d'habiter une totalité qui est la totalité de tous les surgissements, toutes les présences du monde, avec bien sûr les grands, je dirais, les grandes zébrures de la colonisation occidentale, mais avec tout ce qui n'a pas été frappé par la colonisation, tout ce qui fait l'humain, tout ce qui fait le vivant, et qu'il nous faut prendre en compte et auquel il faudrait nous relier. La relation, c'est vraiment un concept absolument puissant. Mais l'imaginaire de la relation, la poétique de la relation, ce dépassement absolument incroyable qu'il faudrait effectuer, n'est pas encore fait complètement. On peut dire que Glissant est encore à venir. Il est à venir pour les Antilles, mais je pense qu'il est aussi à venir pour la totalité du monde.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world.
C'était Édouard Glissant, poète d'un monde à venir, avec Patrick Chamoiseau, Juliette Éloi-Blaisès, Edwy Plenel et Sylvie Sema Glissant. Merci à François Vitrani, Manuel Norva, Joseph Paulius, Audrey Célestine, Nadie Guyoz, Antonio Segui et Barbara Glissant. Allocution d'Édouard Glissant au Lamentin en 1946, lue par Mélissa Lavaux. Extrait du poème Les Indes publié en 1956 et des romans La Lézarde publié en 1958 et Malemort publié en 1975, lu par Édouard Glissant. Prise de son Bernard Laniel, Valérie Lavalard, Nasser Moussaoui et Yann Fressy. Mixage, Éric Boissé. Documentation, Béatrice James. Archivina, Véronique Jolivet. Attachée de production, Sylvia Favre. Coordination, Christine Bernard. Édouard Glissant, poète d'un monde à venir. Un documentaire d'Antoine Tricot, réalisé par Somanina.